Chant 25e. En achevant ces mots, le larron, ombre impie, fait la figue en levant les deux mains et s'écrie : Attrape, Dieu du ciel, attrape et nargue à toi. Mais alors un serpent, et depuis je les aime, se jette autour du cou du pécheur qui blasphème, comme pour dire : Il faut te taire et rester quoi. Un autre en même temps vient lui serrer l'échine, et nouant par devant ses bras sur sa poitrine, le frappe de silence et d'immobilité. Ah, pisse-toi, ah, pisse-toi, ô vil infâme, allume, et de tes propres mains, un feu qui te consume, puisque ainsi tu grandis dans ta perversité. Dans les cercles d'enfer, aucune âme damnée n'avait, même en comptant le thébain capané, bravé si follement le ciel, le front levé. Sans ajouter un mot, il avait pris la fuite. Plein de rage, un centaure accourt à sa poursuite, criant : Le misérable, où donc s'est-il sauvé ? Les marèmes, je crois, dans leur champ infertile, n'ont jamais à la fois nourri tant de reptiles que son large dos ce monstre n'emportait. À l'attache du col, sur ses épaules nues, un dragon se tenait, les ailes étendues, et vomissait du feu sur quiconque approchait. « C'est Cassius, dit mon maître, un brigand sanguinaire, qui du mont Aventin avait fait son repère, et qui changea souvent son antre en lac de sang. Il n'est pas dans le cercle où cheminent ses frères, à cause du larcin que ses mains téméraires commirent sur les bœufs, dans l'Aventin paissant. Ce fut le dernier trait de ce monstre homicide. Il tomba sous les coups, vengeur du grand Alcide. Il en reçut bien 100. 10 l'avaient couché mort. Comme il parlait ainsi, disparut le senteur. Et 3 esprits vers nous de s'avancer encore. De moi comme du maître, inaperçus d'abord, qui se mirent ensemble à nous crier : Qui vive ? Virgile fit silence, et l'oreille attentive, nous restions l'œil fixé sur ces 3 malheureux. Je n'avais d'aucun d'eux reconnu la figure, mais un des 3, ainsi qu'il advient d'aventure, vint à dire tôt le nom de l'un d'entre eux. « Qu'est devenu Cuanfin, qu'on ne voit plus paraître ?» À ces mots, pour fixer l'attention du maître, je fis signe en posant sur ma lèvre 2 doigts. Maintenant, ô lecteur, si dure est ton oreille, à ce que je dirai, point ne sera merveille, moi qui l'ai vu moi-même, à peine si j'y crois. Tandis que mon regard entre les 3 balance, se dressant sur 6 pieds, un reptile s'élance, et sur l'un des pêcheurs s'attache avec transport. De ses pieds du milieu lui comprime le ventre, de ses pieds de devant lui prend les bras, les ventres, et puis plonge ses dents dans la joue et le mord. Colle ses pieds d'arrière aux 2 cuisses qu'il presse, passe sa longue queue entre elles, la redresse, et la tord par derrière au-dessus du damné. Le lierre qui s'attache et prend racine à l'orme n'a pas les nœuds puissants qu'avait le monstre énorme, nouant, greffant son corps sur cet infortuné. Puis ensemble, voici combre et serpent se fondent comme une cire en feu. Leurs couleurs se confondent, aucun ne paraît plus déjà ce qu'il était. Ainsi le papier vierge au feu qui le dévore commence par brunir, il n'est pas noir encore, mais la tache grandit et le blanc disparaît. Les 2 autres témoins de ces affreux mélanges criaient ensemble : Hélas, Agnel, comme tu changes ! Vois, tu n'es plus toi-même, et vous n'êtes plus 2. Les 2 têtes s'étaient en une réunies. On ne distinguait plus des 2 faces brunies qu'une seule, où leurs traits s'entremêlaient hideux. 4 membres fondus forment 2 bras énormes, la poitrine et les flancs et les jambes difformes s'assemblent en un corps qu'on ne peut concevoir. Pas un trait, pas un air que l'on pût reconnaître. Être double, ou plutôt, ce n'était plus un être. Et le monstre à pas lents se mit à se mouvoir. Comme sous les ardeurs d'un jour caniculaire, le lézard s'échappant du buisson solitaire glisse rapide et clair au travers du chemin, tel accouru alors vers les 2 autres âmes, un serpent plus petit, le corps tout ceint de flammes, et divide et tout noir comme un grain de cumin. Il perça l'une au creux du ventre, à la partie d'où nous puisons d'abord l'aliment et la vie. Puis à ses pieds, soudain, je le vis qui tombait. Le blessé, sans parler, regarda le reptile, la bouche grande ouverte, et debout immobile, comme pris de sommeil ou de fièvre, il bâillait. Ils jetaient l'un sur l'autre un regard sombre et louche, l'un fumé par sa plaie et l'autre par la bouche. Les vapeurs se mêlaient et les couvraient tous deux. Arrière, ici t'amuse, ô Lucain, qu'on oublie Sabellius et Nasid au désert de Libye. Écoutez ce récit, il est plus merveilleux. Arrière et l'Arétuse et le Cadmus d'Ovide, l'un en serpent changé, l'autre en source limpide. Je ne suis point jaloux de lui, sans trop d'orgueil. Il n'a pas échangé deux êtres face à face, deux êtres différents de nature et de race, troquant forme et matière, et cela d'un clin d'œil. Homme et bête alternant, ô changement bizarre, chez le serpent la queue en fourche se sépare, le blessé réunit ses deux pieds et les joints. Et la jambe à la jambe, et la cuisse à la cuisse, se soude fortement, si bien que l'œil ne puisse distinguer seulement la jointure et le poing. La fourche du serpent prend la forme précise, des jambes que perd l'homme, et sa peau s'égalise, et chez l'homme la peau s'écaille et se durcit. Dans l'aisselle rentrant, ses bras se rétrécissent. Les pieds courts du serpent, au contraire, grandissent, d'autant que du damné, le bras se raccourcit. Ceux d'arrière tordus et qu'ensemble il attache forment chez le dragon le membre que l'on cache, tandis qu'en deux celui de l'autre s'est fendu. Cependant la fumée entourant les deux ombres et les enveloppant de ses teintes les plus sombres donne au monstre le poil qui par l'homme est perdu. Le reptile se dresse et l'homme tombe et rampe, et leurs yeux sont restés fixes comme une lampe sous les feux de laquelle ils échangent leurs traits. Celui qui s'est dressé vers les tempes ramène son museau, du trop-plein de sa chair inhumaine, sur l'une et l'autre joue, une oreille apparaît. Au milieu, cependant, quelque chair qui s'arrête, du nez sur le visage, a dessiné l'arête, et de la lèvre aussi figuré le contour. L'homme en serpent changé pousse en avant sa face et rentre chaque oreille ainsi qu'une limace, qui retire et qui sort ses cornes tour à tour. Sa langue unie et lisse est preste à la parole, se fend, et du serpent la langue se recolle, se ferme, et la fumée en l'air s'évanouit. L'ombre qui du reptile avait pris la figure fuit alors en sifflant dans la vallée obscure. L'autre parle en crachant dessus et la poursuit. Puis, lui tournant le dos, qu'à présent il possède, dit au troisième esprit. Que Busso me succède, ainsi que je l'ai fait, qu'il rampe en ce ravin. Ainsi dans cette fosse, une ombre en l'autre infuse, changée devant mes yeux. Le prodige m'excuse, si j'ai perdu les fleurs, des beaux vers en chemin. Or, bien que tant d'horreurs eussent troublé ma vue, et que mon âme en fût encore tout éperdue, ils ne purent si bien s'esquiver les voleurs que Puccio Sanciato ne se fit reconnaître. De ces trois que d'abord j'avais vus apparaître, lui seul avait gardé sa forme et ses couleurs. Le troisième, ô Gaville, t'a coûté bien des pleurs.